curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Nous revoilà aux amateurs de sport. Je devais m'entretenir avec Brandon Gignac la semaine dernière à titre de porte-couleur du Rocket de Laval. Quelle joie d'avoir dû attendre une petite semaine de plus, mais cette fois pour m'entretenir avec Brandon Gignac maintenant, porte-couleur du Canadien de Montréal. 5 ans entre son premier match dans la Ligue nationale dans l'organisation des Devils et lundi dernier, le 5 février 2024, pour son premier match avec le Canadien de Montréal. Brandon est avec nous ce soir à l'émission. Bonsoir, Brandon.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Dis-moi comment tu vis ton retour dans la Ligue nationale depuis quelques jours après ton deuxième match en carrière dans la Grande Ligue.
Honnêtement, tu sais, c'était beaucoup de mouvements dans les derniers jours, puis j'essaie juste de comprendre un peu ce qui se passe présentement, mais non, c'est super le fun, puis je suis extrêmement... content de porter le couloir du Canadien.
Quand tu dis que tu essaies de comprendre, là, j'aimerais ça comprendre ce que tu essaies de me dire. Ça tourne, c'est comme un tourbillon?
Ouais, un peu. Les derniers jours étaient mouvementés. C'est dans le fond, c'est mon agent qui m'a annoncé que je montais avec le Canadien une journée. Dans le fond, le samedi soir après notre game au Rocket. Puis il disait le lendemain, je pratiquais avec le Canadien. Donc tout s'est fait vite, puis c'était magique comme moment.
Puis apparemment, mon vlimeux, t'as joué un tour à tes parents avant de leur annoncer la nouvelle?
Ouais, je suis quand même assez farceur dans la vie, donc ouais, je sais que mes parents sont tout le temps stressés un peu, fait que je les aide pas, mais j'ai joué un tour à ma blonde au début, puis après ça, j'ai mis ma blonde dans le tour pour jouer un tour à mes parents puis à ses parents aussi. Donc
Comment tu leur annonçais ça, Brandon? Comment tu leur annonçais ça pour le fun?
Ben dans le fond, le samedi soir, après la game, on avait déjà un souper de prévu. Puis dans le fond, on est arrivé là, puis mes parents, puis les parents, ma blonde, mon frère, sa blonde ils attendaient tous au restaurant. Puis dans le fond, je suis arrivé, puis je leur ai dit que j'allais leur payer le souper ce soir, fait que...
T'as jamais été aussi content de payer un souper, j'imagine?
Non, c'est ça, ça m'a pas dérangé pendant tout.
Fait que t'as joué ton dernier match avec le Rocket, si j'ai bien saisi, puis tu savais que tu t'allais être rappelé? Ou c'est vraiment après le match?
C'est après le match, je l'ai su, tu sais, je savais que mon agent, il parlait avec l'équipe pendant la partie, puis... parce qu'eux, ils étaient en congé du All-Star, fait que... Dans le fond, mon agent m'a dit qu'il allait parler avec l'organisation pendant la partie. Fait que j'attendais des nouvelles après la partie, mais je recevais pas ben de nouvelles. Ça a pris quand même un bon bout avant de recevoir l'appel. Puis c'est ça, j'étais assez content.
Ben, j'imagine que t'es assez content. Bon, je reviens sur la sensation que tu as éprouvée lundi en jouant le match dans une victoire à part de ça sur la route. Tu sais, j'ai fait quelques entrevues dans ma carrière, puis souvent le premier match, c'est sinon le meilleur souvenir. Là, toi, c'est comme si tu avais deux premiers matchs. Fait que comment tu compares ton premier match à vie en 2019 avec les Devils et ce que tu as vécu cette semaine avec le Canadien?
Honnêtement, c'était deux très différents. Je dirais que mon premier, je l'ai su le soir même. Dans le fond, je m'en allais. Je l'ai su à minuit, puis je jouais le lendemain à New York contre les Rangers. Fait que j'ai pas eu beaucoup de sommeil. Ça a été très difficile sur le corps. Dans le fond, j'étais trop excité. J'étais quand même assez jeune aussi, donc moins mature. C'était comme plus difficile à comprendre. Mais là, pour cette partie-là, j'ai réussi à dormir. J'ai eu une bonne nuit de sommeil. J'ai eu une bonne sieste d'après-midi. Puis je me sentais très à l'aise à la venue de mon premier match. Mais c'est ça, c'était deux affaires différentes, mais je reviens à, dans le fond, qu'est-ce qui était différent, c'est... Tu sais, j'avais dit dans une autre entrevue, jouer dans la Ligue nationale, c'est quelque chose, mais jouer pour le Canadien de Montréal, c'est un plus grand rêve pour moi. Là.
Et là, tu dois anticiper ton premier match à domicile en fin de semaine, samedi après-midi, Brandon?
Ah, c'est sûr, certain, tu sais, avec Avec la petite chanson du début, c'est sûr que ça va me donner des frissons, c'est certain.
Ben, j'imagine. Quand t'as fini le camp d'entraînement il y a quelques mois, je pense qu'on t'a tous remarqué, même Martin Saint-Louis le disait après le match à Washington, il a dit, tu sais, c'était flagrant au camp là, que t'avais eu un bon camp, que t'étais rapide. Puis là, tu t'es retrouvé coincé dans une situation contractuelle que t'as vu des gars être rappelés. Puis premièrement, est-ce qu'on t'a dit à la fin du camp, malgré ta situation contractuelle, est-ce qu'on t'a dit des mots d'encouragement? Parce que toi, dans le fond, quand tu finis le camp, tu t'en tournes avec le Rocket, t'as un contrat de Ligue américaine one way, fait que, en principe, tu sais, t'étais là pour l'année, là.
Ouais, dans le fond, tu sais, quand j'ai eu ma rencontre à la fin du camp, ils m'ont dit, tu sais, continue à travailler fort, on le sait que Martin t'aime beaucoup, puis ils ont dit si on a la chance de te signer, on va le faire, puis ils ont dit, force-nous la main, fait que c'est ça que j'essayais d'amener à tous les jours au Rocket, c'était de leur forcer la main, puis ça a fonctionné.
Mais dirais-tu vraiment que c'est une phrase que tu te rappelais pour aller chercher tout le gaz que tu fais donner à chaque match? C'est vrai, tu sais, ça a vraiment eu un impact, c'est quelque chose qui te revenait régulièrement pour quand t'as besoin, puis je pense pas que t'en avais besoin tant que ça, mais quand t'avais besoin de la petite coche de motivation, là?
Ouais, ben, c'est sûr, tu sais, c'est tout le temps motivant, tout le monde veut se rendre à Ligue nationale un jour, donc... C'est sûr que quand t'es si près du but, mais que t'as pas le contrat, c'était plus dur, mais à chaque fois, je m'accrochais là-dessus, puis je le voulais, ce contrat-là.
Quand les Devils du New Jersey, après quelques années, puis même quelques années après ta seule audition dans la Ligue, abandonnent sur ton cas et t'envoient dans la East Coast League avant de vraiment là, de briser tout lien contractuel, comment l'as-tu vécu moralement, mentalement? Est-ce que ça a été, on pourrait-tu identifier ça, mettons, si on avait un dessin d'électrocardiogramme, là, c'est-tu un low point, un point bas dans ta carrière?
Ouais, c'est sûr que c'est un point très bas, puis je me disais pourquoi moi, mais d'un autre sens, je voulais pas m'apitoyer sur mon sort, puis je me suis dit, tu sais, je regardais des belles exemples à suivre aussi qui ont passé par la East Coast, tu sais, c'est moi je me disais tout le temps, c'est un step en arrière, deux steps par en avant, fait que c'était un peu là-dessus que je me motivais, puis j'essayais de revenir où ce que j'étais, puis aujourd'hui, je suis extrêmement content.
As-tu songé à abandonner? As-tu songé à aller en Europe? As-tu déjà pensé que tu vivais une injustice?
Oui, on parle du moins justice. Dans le fond, je me disais, crime, le pourquoi moi, il revenait souvent, mais je voulais pas tomber dans cette roue-là, puis je voulais juste me relever. Puis oui, c'est sûr que des fois, il y avait des jours plus difficiles que d'autres. J'avais des offres en Europe, mais tu sais, je me suis dit pourquoi abandonner tout de suite quand je suis jeune. Donc je voulais vraiment continuer à m'accrocher à mon rêve.
Ben, tu dois t'être dit, j'ai pas tout fait ça pour rien. Puis maintenant là que t'es sous contrat avec le Canadien, que t'as joué le match lundi, qu'est-ce que tu découvres comme ambiance avec le grand club? Comment t'as été accueilli à partir du moment où t'as mis le pied? Puis est-ce que c'est aussi stressant d'être accepté et accueilli dans un groupe de gars, dans une équipe, que de jouer le match comme tel?
Pour vrai, c'est un groupe assez jeune. Tu sais, les gars sont incroyables. Ils nous accueillent comme si ça faisait déjà des années qu'on jouait avec eux. Fait que il y a beaucoup de bonnes personnes dans le vestiaire, puis il y a un bon groupe de vétérans qui aident aussi l'équipe. Donc, je pense que ils ont été super fans avec moi, ça a été parfait.
Puis le fait qu'il y en a une couple qui ont fait l'aller-retour, c'est pas bien loin, là, Laval-Montréal, ça fait que t'as quelques visages familiers. Là, on voyait que parmi les premières images à la glace, je pense que t'étais avec Harbour, Jack Hyde, puis je sais pas c'était qui l'autre qui patinait avec toi des premiers tours que t'as fait. Fait que c'est des visages, disons, familiers. Fait que ça facilite l'intégration en quelque sorte.
Ah, 100%, tu sais. Puis j'ai déjà des bons amis à moi, tu sais. Raph, Harvey Pinard, tu sais, on passe nos étés ensemble aussi, donc... C'est sûr que ça l'a aidé aussi. Puis avec Savard, qui est québécois, c'est un des bons vétérans dans le vestiaire, ça l'aide aussi. Puis Montembeau aussi, ils ont été tous incroyables avec moi pour m'accueillir.
Je reviens sur le niveau de jeu avec lequel tu es revenu au camp d'entraînement, Brandon. Tu avais du feu vraiment à chacune de tes présences. Et même si tu étais déjà un bon joueur, entre guillemets, des ligues mineures, tu es arrivé avec, je trouve, une coche de plus cette année, juste à comparer à l'an passé. C'est quoi la différence?
Ben dans le fond, tu sais, je voyais mon âge, puis je me suis dit, tu sais, la fenêtre est en train de se fermer, donc je voulais tout laisser sur la patinoire, puis leur montrer comment j'avais travaillé fort pendant l'été pour venir à ce camp-là. Puis je pense que j'avais laissé une bonne carte de visite, puis ça a tout marché comme que je l'avais planifié.
À quiconque qui entend, qui comprend le français, qui joue au hockey, qui nous écoute peut-être quelque part dans l'East Coast League, parce qu'il y en a qui l'ont vécu, puis les gars restent souvent connectés avec le Québec à travers nos émissions, ou un jeune qui a envie de décrocher parce qu'il a été scratché midget 3A ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu peux dire, Brandon, maintenant que t'as remis le pied à 5 ans d'écart pour une deuxième fois sur une glace de la Ligue nationale, à tous ceux qui ont envie de, tu sais, de peut-être de se laisser aller ou de spinner du noir un peu, là?
Ouais, ben, pour vrai, tu sais, je le disais souvent, mais c'est extrêmement facile à dire. Tu te le dis dans ta tête, mais il faut juste jamais que tu lâches. Puis il y a des belles choses qui arrivent dans la vie aux personnes qui travaillent. Donc c'est ça, la persévérance va t'amener loin dans la vie.
T'avais su en quittant le camp d'entraînement que Martin donc avait une bonne opinion de toi. Il l'a dit après le match quand on a questionné le coach sur son appréciation de ta performance. Bon, Martin, évidemment, qui ne mettra pas davantage de pression, mais il a dit quel âge, 25-26, il dit c'est pas comme s'il arrivait à 30 ans, là, il peut encore avoir une longue carrière. D'entendre ça de ton coach, je sais pas si c'est quelqu'un qui t'a déjà inspiré personnellement, même si tu ne l'as pas dit directement, mais que ça rebondit via les médias, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces paroles-là du gars qui décède de ton temps de glace maintenant, là?
Ah, tu sais, c'est extrêmement flatteur. Tu sais, il a eu une carrière incroyable, Martin, dans la Ligue nationale. Donc, d'entendre ça de lui, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Mais d'un sens, tu sais, c'est quelque chose de jouer une game, mais de rester là pendant des années, c'est une autre chose. Fait que, tu sais, je continue à me concentrer sur le moment présent, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais je vais tout donner, c'est sûr et certain.
Deux petites en terminant. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec Jean-François Houle, mais aussi avec tous les gars avec qui tu as joué avec le Rocket de Laval ces dernières années? Cette année, l'ambiance qui règne là, la place belle, puis l'équipe, finalement.
Ouais, c'est sûr que, tu sais, je vais commencer par Jean-François. J'y dois ma carrière en ce moment. Tu sais, c'est lui qui m'a aidé à me rendre où ce que je suis en ce moment. Tu sais, c'est lui qui m'a donné la chance de jouer pour une équipe de la Ligue américaine. Il m'a fait confiance, puis c'est un peu pour ça que en ce moment je suis ici. Puis pour l'équipe de Laval, tu sais, je suis proche avec tous les gars dans le vestiaire, donc je continue à prendre de leurs nouvelles, c'est sûr et certain. Puis ils ont une belle équipe cette année. Ils ont un beau mix de jeunes et de vétérans. Donc, je leur souhaite plein de victoires. Puis, on va voir qu'est-ce qui va arriver.
T'es-tu en train de me dire que c'est Jean-François Houle qui t'a recommandé à l'organisation?
Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le fond, c'est lui qui m'a... Quand je suis arrivé à Laval, c'est lui qui m'a coaché en premier. Donc,
okay.
Je me battais pour un poste ma première année dans l'équipe. Puis, il m'a donné ma place dans l'équipe. Puis,
d'accord.
Par la suite, c'est lui qui m'a fait monter les échelons un peu.
Puis en terminant, il va y avoir du monde de la famille, des amis pour le match samedi contre Dallas, j'imagine, Brandon?
Ben oui, c'est sûr, certain. Il y a beaucoup de monde qui me demande des billets, mais on va voir comment que ça va se passer de ce côté-là.
Ben Brandon, bravo pour cette autre étape franchie dans ta carrière. C'est très inspirant, puis ça fait juste commencer ton affaire dans la plus grande ligue. Je parle pas de ton cheminement complet. La meilleure des chances pour tes matchs à domicile en fin de semaine à toi et à l'équipe. Puis je suis bien content de t'avoir parlé à l'émission ce soir.
Un gros merci.
Merci beaucoup, Brandon. C'était Brandon Gignac, maintenant du Canadien de Montréal.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Allô, Maxime.
Salut, Mario.
Un jeudi soir, c'est rare qu'on se parle de jeudi. Dans quel genre de gars que t'es un jeudi soir, toi, Max? T'étais-tu, dans ta jeunesse, un abonné au 5 à 7 quand tu pouvais y aller?
Ah, jeudi soir, oui, mais là, c'est plus les journées de tennis à cette heure, les jeudis. Mes deux filles ont leur cours de tennis, puis c'est là que je vais voir ça normalement. Mais là, aujourd'hui, j'ai manqué ça. J'avais un événement avec les anciens Canadiens. Puis ça a fait du bien de patiner sur la glace au Centre Bell pour la première fois depuis longtemps.
Ah oui, hein, ça te donne ça encore un feeling. Imagine les gens qui vont juste jouer un match des fois. Là, j'ai eu l'occasion de le faire. C'est vrai que juste jouer sur la glace officielle qu'on voit à la télévision, c'est toujours un petit quelque chose de spécial.
Ben 100%, puis ça rappelle des souvenirs intenses puis des beaux moments dans ma carrière, ça c'est sûr et certain.
Aucun doute. Maxime, tu as joué avec quelques équipes en carrière, puis je parlais avec Brendan Gignac tout à l'heure, puis tu sais, je lui demandais comme ça un peu naïvement, puis candidement, en voulant dire, tu sais, le stress vient-tu d'être intégré au groupe ou de jouer comme tel ton premier match, parce que normalement tes compétences hockey sont là, c'est pour ça que tu vas jouer, mais il y a peut-être un aspect intimidant de se faufiler dans un groupe. Toi, comment t'as vécu tes changements d'équipe? C'était-tu comme bien naturel parce que toute la ligue se connaît, ou c'est toujours un petit peu intimidant d'arriver d'une nouvelle gang?
Ben, je pense que c'est différent partout. Tu sais, puis si, mettons, on commence par le Canadien de Montréal, c'est intimidant, là. Quand j'ai reçu l'appel à Hamilton, puis tu sais que tu t'en vas dans une organisation qui a remporté des coupes cette année, là, tu commences à penser à Maurice Richard, à Guy Lafleur. Là, tu penses à tes parents, tu penses aux efforts que tu as faits, tu penses aux coéquipiers que tu vas rencontrer dans quelques heures que tu connais pas, puis c'est stressant parce que, tu sais, veux pas, moi, ça coûte avec vous. Je le regardais jouer à tous les soirs dans le salon chez nous, quand j'étais jeune. Tu sais, là, tu te dis, t'arrives dans le vestiaire, t'es assis à côté de lui, c'est stressant, là, tu sais. Tu dois démontrer, tu dois prouver que tu es un bon joueur de hockey, que tu fites dans ce groupe-là, dans la Ligue nationale de hockey. Tu as cette pression-là, tu veux pas décevoir tes parents, tu veux pas décevoir les partisans, tu veux faire une bonne impression devant les médias la première fois. C'est tout un stress, le premier match pour le Canadien de Montréal. Tu sais, je pense que c'est extraordinaire. Puis justement, c'est les partisans qui font que ce stress. Tu sais, souvent, les joueurs disent que c'est stressant de jouer à Montréal, mais je pense que quand tu fais les bonnes choses, c'est les partisans font que ce stress-là part, parce que sont derrière toi, tu sais, ils crient pour toi, ils sont bruyants à chaque fois que tu donnes une mise en échec. Puis c'est eux qui t'aident justement à dire, bon, mais tu fites avec les partisans, dans le fond, tu sais, tu fites dans le groupe, puis c'est ça qui fait qu'après ça, c'est une belle aventure, puis tu sens que t'as 21 273 personnes qui te soutiennent. Ça aide, ça, quand tu commences avec le Canadien.
On prend donc, ça doit aider pas à peu près, puis au point même, as-tu déjà senti, peut-être que Guillaume l'a vécu, je sais pas, on l'a peut-être abordé déjà avec lui, mais tu sais, quand t'es très populaire, même peut-être plus populaire que les plus populaires du club, parce que t'es un Québécois qui a un beau début de carrière, je sais pas si ça crée des fois, je dirais pas de la jalousie, là, c'est pas des enfants non plus, mais des petits malaises. Tu sais, je me rappelle qu'Alex Kovalev, dans une entrevue qui avait nié avoir donné en Russie dans le temps, évoquait le fait que, tu te rappelles-tu de ça, de cette histoire-là, là? T'sais que dans le fond, le monde est en amour avec des gars qui en tout cas, ça t'évoque-tu un souvenir?
Ouais, mais je me rappelle plus c'était qui les noms, là, mais je me rappelle qu'il avait dit quelque chose du genre. Ouais, ça dépend. Tous les styles de joueurs, ils ont une relation différente dans le vestiaire. T'sais, un gars comme qui compétitionne pour les deux premiers trios, tu le sens qu'il y a une compétition à l'interne. Un gars comme moi, j'ai toujours, tu sais, j'avais ma chaise sur le quatrième trio. Il y a personne qui pouvait vraiment m'avoler, puis je pouvais pas vraiment voler la chaise de personne. Puis tu sais, mon comportement, moi, je suis un gars souriant, j'amène de l'énergie, puis je travaille. Fait que c'était dur pour les gars d'être contre moi ou d'être jaloux. Tu sais, il y avait rien à être jaloux, là. T'es joueur de centre du quatrième trio, là. Tu sais, il y a pas personne qui se sent menacé, puis les gars ont toujours été corrects avec moi. Puis je pense qu'ils comprenaient aussi que, ben, en tout cas, ça, c'est ce que je pense de moi-même, là, mais je pense que je représentais aussi le Québécois qui travaille fort, puis qui essaie de s'en sortir, puis qui essaie d'aider sa famille, puis je me voyais comme ça, tu sais, je me voyais comme mes parents repentinés dans le temps, des gens qui travaillent fort, puis je pense que ces gens-là, normalement, sont respectés.
Ouais. Sentais-tu une compétition entre Sakou et Kovalev?
Pas vraiment, tu sais, non, premièrement, c'est pas la même position, tu sais. Si tu m'avais dit c'est deux joueurs de centre, un puis deux, c'est sûr qu'il y a une compétition. Puis c'est, tu sais, Mario, la réalité, là, c'est que ton temps de glace décide de ton salaire. Puis tes statistiques. Fait que si y a un gars qui prend ta place sur l'avantage numérique, quand même bien que c'est le gars le plus gentil au monde, c'est sûr que, puis là, moi, j'avais le meilleur siège, j'ai toujours été le gars justement qui jouait pas sur l'avantage numérique. Tu regardes ça aller, c'est pas le gars qui a du talent qui te fait scorer, que je veux pas dire que t'aimes pas, mais que t'as une compétition avec, c'est le gars qui prend ta place. sais, si t'as, si t'as moins de temps de glace parce que l'autre est sous l'avantage numérique, puis tu fais moins d'argent, puis t'as moins d'années de contrat, puis peu importe, c'est là que tu sens une tension, mais je pense que c'est toujours sain, tu sais, la façon que les gars compétitionnent entre eux-mêmes.
Ben, en tout cas, de la manière que Brandon parlait, puis c'est vrai que le groupe est plutôt jeune chez le Canadien de Montréal, mais l'intégration, là, lui, son arrivée, c'est sûr que, tu sais, tu compares l'alignement du Canadien aujourd'hui en 2024 à celui qui était là quand t'es arrivé, tu sais, avec des Sorey, des Markov, des Plekanec, des Koivu, des, bon, Guillaume, qui qu'il y avait d'un gros nom dans le temps? Bank était là également, ben, c'était pas...
Ben, il y avait Bégin, Bouillon, Commissarek, il y avait
oui,
beaucoup de bons joueurs, tu sais, je me rappelle, c'était-tu... Sundstrom, me semble, un allié. Il y avait Mike Johnson. Il y avait beaucoup de vétérans qui avaient déjà accompli des belles choses dans la Ligue nationale de hockey. Mais pour un gars, pour revenir à Brandon Gignac, justement, je pense que là, c'est il y a une belle opportunité. Martin Saint-Louis parlait des chaises au début de l'année, mais il y en a des chaises. Là, puis même s'ils sont pas libres, il y a des chaises qui peuvent être volées, selon moi, dans cette organisation-là. Mais Mario, je l'écoutais tantôt, puis ça me rappelait tellement des beaux souvenirs. Puis c'est tellement une belle histoire. Un gars qui est capable, tu sais, de faire face à l'adversité dans la vie, c'est une chose, mais de faire face à l'adversité pendant plusieurs années, ça en est une autre. Puis lui, il a été patient dans tout ce processus-là. Puis je lui lève mon chapeau, honnêtement, parce que ça aurait été tellement facile de juste dire, bye, je m'en vais en Europe, ou j'abandonne, ou j'arrête de m'entraîner sérieusement. Et il a pas lâché le morceau, puis là, il joue pour le Canadien de Montréal. Puis c'est un beau message. Puis c'est ça qui fait des fois, tu sais, on parle souvent des Québécois à Montréal, mais c'est un beau message pour nos jeunes. D'arrêter de laisser les gens dicter notre futur. Tu sais, que tu sois atome, puis oui, novice, peu importe. Souvent, on fait l'erreur de catégoriser les jeunes, de dire, lui, c'est un deux lettres atome, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. C'est pas comme ça. Chaque année, c'est une nouvelle page. Puis chaque année, il y a une personne différente qui va peut-être te voir, donc il y a toujours une opportunité. Jamais abandonner ses rêves. Je sais que c'est peut-être cliché un peu, mais...
Non, il l'a dit, c'est plus facile à dire, hein, mais le faire, c'est pas évident. Hein?
Ben, le faire, c'est pas évident si tu y crois pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui l'ont fait. Tu sais, on parle souvent des super vedettes, mais on oublie souvent les Francis Bouillon que je viens de mentionner, les Brandon Gignac, les Perron, les Burroughs, les Robida, les Martin Saint-Louis. Tu sais, il y en a beaucoup de gars qui ont été effacés de la map puis qui l'ont... Ils se sont rendus à leur rêve.
Oui, tout à fait. Et t'en fais partie. Est-ce que tu peux identifier, puis c'est pas... As-tu, toi, ton plus grand test, si tu veux, de force mentale de ta carrière, comment il s'est présenté à toi, si t'en as eu un de ce niveau-là, sans passer comme Brandon 5 ans entre tes deux premiers matchs en Ligue, là?
Moi, mon parcours a été différent quand même parce que mon plus grand test, ça a peut-être été de transformer mon style de jeu. Tu sais, j'ai toujours été un gars de vitesse qui était quand même capable de faire des points d'une certaine façon. Tu sais, j'étais pas un gars de 100 points junior, mais je marquais mon 25 buts, je marquais quand même des buts, puis j'avais une couple de points dans la Ligue américaine. Mais d'accepter que pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, c'est tu vas mettre la rondelle dans le fond de territoire, tu vas donner des mises en échec, puis tu vas gagner des mises en jeu qui étaient... Honnêtement, si tu regardes en arrière, là, tu sais, je peux en rire parce que ma carrière est finie, mais c'était plate comme rôle, tu sais. Oui, jouer pour les Canadiens, c'est extraordinaire, la Ligue nationale, tout ça, mais quand tu joues au hockey, la base, c'est quoi? Tu veux t'amuser, tu veux avoir des lancers au filet, tu veux jouer en avantage numérique, tu veux avoir des deux contre un. C'était pas ça ma carrière, tu sais, puis je suis content de l'avoir accepté. Ça a été ça mon challenge de dire, écoute, tu l'aimes-tu, le chandail du Canadien, surtout quand tu te regardes dans le miroir entre les périodes? Mais il va falloir que tu acceptes que c'est ça ton rôle pour rester là pendant plusieurs saisons. C'est aussi simple que ça.
Wow. Et quand les gens qui sont à l'écoute vont comprendre, puis nous, on en a déjà discuté, mais pourquoi, à quel point ça a été, comment dirais-je, une belle période de ta vie, de ta carrière, de retrouver un rôle prépondérant dans une équipe en allant jouer en Europe et en Suisse, en Allemagne particulièrement, Maxime, où tu redevenais le gars que tu étais dans le junior, en quelque sorte, hein?
Ouais, exactement. C'est que je veux pas dire m'amuser parce que je m'amusais quand même. Là, tu sais, jouer au Canadien de Montréal, c'est de retrouver la base. Pourquoi t'as commencé à jouer au hockey quand t'étais jeune? C'était pour avoir la rondelle sur ta palette.
Hey, c'était très intéressant. J'aime ça quand on entre à travers, là, surtout quand on n'est pas au lendemain d'un match, on délaisse l'analyse puis on voit un peu dans ton vécu. Merci d'avoir partagé ça, Maxime. Bonne soirée.
Salut Mario.
Bonne fin de semaine. Bye. Bon Super Bowl. On se reparle la semaine prochaine.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Quel bonheur de l'accueillir ce soir aux amateurs de sport, lui qui, pas plus tard qu'en février 2020, était de l'équipe des Chiefs qui mettait fin à une sécheresse de 50 ans sans occasion de célébrer un championnat avec Patrick Mahomes et Andy Reid. Vous l'avez deviné, le seul et unique, Laurent Duvernay-Tardif. Bonsoir, Laurent.
Hey, salut Mario, comment tu vas?
Ça va très bien, et toi?
Ça va très, très bien. Merci.
Ben, je suis content que ça aille très bien. T'as toujours l'air à dégager une super énergie. J'imagine que, comme tout le monde, t'as tes moments, mais c'est ton anniversaire en fin de semaine. Tu vas avoir le vénérable âge de 33 ans, un 2 février dimanche. Les Chiefs peuvent pas perdre le jour de ta fête, Laurent.
Les Chiefs peuvent pas perdre, en effet. Puis je pense que ça va être un week-end de sport bien chargé en émotions aussi avec... Premier Super Bowl de moi à la retraite, l'anniversaire, puis aussi les souvenirs quand même, parce que il y a 4 ans, jour pour jour, ben on l'avait gagné ce Super Bowl-là dans un match-up similaire, dans une ville similaire aussi, remplie de vices et de distractions. Fait que, bref, beaucoup de souvenirs, surtout dans cette semaine-là qui précède le Super Bowl. Pour moi, ça vient chercher une corde sensible.
Ben, j'imagine, et juste avant d'aller là, justement, vers cette zone-là, puis ces souvenirs de la victoire, est-ce que normalement, puis là, t'es tout nouveau retraité, fait que comment projettes-tu de regarder ça? Puis je sais pas si avant de devenir un joueur de football, il y avait déjà une petite tradition familiale que vous aviez de l'intérêt pour regarder ça, mais en fin de semaine, comment prévois-tu être installé pour regarder le Super Bowl?
Ah, je pense que ça va être très relax avec amis proches et famille. Pour moi, c'est... je suis pas le meilleur ami à regarder du foot. Je suis très critique, je suis très dans mon coin et analytique dans ma tête quand je regarde du football. Pour moi, c'est j'ai la misère à être fan nonobstant les mauvais jeux. Si tu joues mal, tu mérites de perdre. Si tu joues bien, tu mérites de gagner. Puis évidemment, je veux que les Chiefs remportent le match, mais je veux surtout que les Chiefs jouent à la hauteur de ce qu'ils peuvent jouer en termes de niveau de football.
Quand tu penses encore, Laurent, à la victoire exceptionnelle que vous avez remportée en 2020, là, qui mettait fin à une dizaine de 50 ans, c'est quoi les premières images de cet événement-là? Puis il doit y en avoir tellement. Là. C'est quoi les premières images qui remontent nécessairement en tête?
Moi, je pense que c'est de voir l'ensemble du banc des Chiefs courir vers nous sur le terrain. Tu sais, de gagner un Super Bowl, c'est... d'accomplissement incroyable, mais de le gagner en étant sur le terrain pour une offensive, c'est toujours comme une espèce de statement supplémentaire. Puis je pense que pour nous, la manière qu'on a été capable d'orchestrer non seulement la remontée dans le match, mais de finir le match avec Patrick Mahomes qui lance la balle au bout de ses bras pour écouler les dernières secondes sur le tableau, puis là, de voir l'ensemble du banc qui court pour venir célébrer, c'est comme si en une fraction de seconde, il y a tellement de choses qui se sont accomplies et concrétisées, puis du jour au lendemain, comme tous les joueurs sont tes meilleurs amis, sont ta famille, puis de pouvoir célébrer avec ces gars-là, c'est des images puis des souvenirs qui vont rester gravés à jamais.
Ben, j'imagine, tu parlais d'une ville de vice, comparaison bien sûr entre Vegas et Miami, et des nombreuses distractions, et je relisais avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs c'était tellement bien écrit ce que tu avais fourni à Podium sur la plateforme de Radio-Canada, là justement au moment de livrer ton texte sur ta retraite, puis le sentiment, en fait tu te sens comme une superstar quand tu arrives au Super Bowl comme joueur, t'as vraiment le feeling d'être une vedette planétaire?
Ben oui, puis en même temps, t'as l'impression aussi que t'es pas à la hauteur de ce que le Super Bowl est, dans le sens où le Super Bowl, c'est plus que juste un match de football. Tu sais, c'est une ville au complet qui est paralysée et qui vit au rythme de cet événement-là, qui dure au bout du compte 4 heures, mais qui est comme une espèce de build-up d'une semaine complète. Puis, tu sais, pour nous, en tant que joueurs de football, on est habitué de performer 90% du temps un dimanche, puis on se prépare pour ce dimanche-là de la même manière. On a 6 jours pour le faire, puis chaque mardi, la même chose, chaque mercredi, la même chose. Chaque jeudi, on installe les jeux de zone payante, les jeux de short yardage, de troisième essai. Vendredi, même genre de pratique. Samedi, on voyage, puis t'arrives à l'hôtel de où tu vas jouer, que ce soit à Kansas City, à Mexico, à Londres ou à San Francisco, le samedi avant le match, 5 heures heure locale, avec le même meeting à 7h30 le soir, puis bref, toute cette routine-là est comme un peu bousillée quand tu arrives au Super Bowl parce que t'as 2 semaines pour te préparer, puis t'arrives le lundi ou le dimanche avant le match, puis t'as une semaine complète à revivre et à angoisser ce moment-là, puis oui, il y a une frénésie, mais il y a aussi une pression, je pense, de performer. Puis moi, je m'en rappelle de ces deux premiers jours-là, le lundi, mardi, qui sont habituellement des journées de repos, puis des journées où est-ce que tu visionnes le match de la semaine précédente, où est-ce que là, on était à Miami avec plein de distractions, puis t'as de la misère à trouver tes repères, puis dès que tu ouvres les réseaux sociaux, on parle du Super Bowl, dès que tu ouvres les médias, t'entends à quel point la ligne défensive des 49ers est intimidante, puis ça va être la clé du match de neutraliser cette ligne-là, puis toi, ben, t'es là, puis tu sais que dans six jours, tu dois performer, puis faut que tu trouves une façon de trouver ta routine, puis de réétudier les jeux que t'as installés la semaine d'avant, parce que t'as deux semaines pour te préparer, puis moi, j'ai trouvé ça quand même dur, je te dirais, la semaine en amont, puis on dirait que à partir du jeudi, du vendredi, là, tu rentres dans un peu plus le rythme normal de préparation, puis tout ça pour après ça culminer au dimanche matin où est-ce que tu te lèves, là t'arrives au stade puis là tu le joues ton match, mais c'est pas facile. Les gens disent que c'est un match comme les autres, mais non, ce n'est pas un match comme les autres.
Entre ce qu'on dit, hein, on veut pas montrer aucune vulnérabilité. D'ailleurs, tu l'as souvent évoqué, là, tu peux pas être habité par le doute. Je me demandais à t'entendre décrire toute cette semaine-là, est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans une semaine qui précède au Super Bowl quand on est un joueur? Quand tu dis dans le texte auquel je faisais allusion que la chambre d'hôtel a été ton meilleur ami?
Ben oui, en fait, parce que ben moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais après ça, tu sais, j'en parle encore avec d'autres coéquipiers qui, eux, pour eux, leur raisonnement, c'était moi, le lundi, mardi, dans ma routine de préparation d'une semaine, ben j'ai besoin de déconnecter du football, et donc je vais déconnecter dans la ville où est-ce que je suis, et donc je vais profiter de ce que Miami a à m'offrir lundi, mardi, puis après ça, mercredi, je recommencerai à pratiquer avec tout le monde, puis moi, on dirait que c'est l'inverse, on dirait, je me disais, je peux pas me permettre, tu sais, de pas être focus, puis avoir à recommencer, avoir le privilège de rejouer un Super Bowl, je pense que je l'approcherais différemment, mais je me rappelle avoir été quand même angoissé en début de semaine par toute cette espèce de frénésie, puis toutes ces distractions-là, puis ces possibilités-là qui te sont offertes, puis le mercredi, tu sais, quand tu reprends une journée de travail plus normale, mercredi pour nous, ben c'est de 7h30 à 5h, puis on regarde les mêmes bandes vidéo, on s'entraîne, pratique marché, pratique pleine vitesse, etc., ben Ça m'a remis, je pense, dans cette espèce de routine-là qui a été pour moi la clé du succès de chaque dimanche. Ça, au bout du compte, un match de football, tu récoltes un peu le fruit, ton résultat, c'est le fruit de tes efforts, de ta semaine de pratique, à quel point tu as pris des bonnes notes, à quel point tu as écouté du film, à quel point tu as détaillé les structures défensives, puis tu es capable de bien les communiquer, puis après ça, d'être capable d'exécuter ça dans un environnement stressant, c'est ce qui fait que le sport est si beau. Tu sais, pour ceux qui savent pas beaucoup c'est quoi le football, moi je dis tout le temps, c'est comme jouer aux échecs, full contact, puis c'est d'être capable de prendre des décisions rationnelles dans des environnements stressants, puis qu'est-ce qui est le plus stressant que de jouer devant 150 millions de téléspectateurs de 121 pays, quelque chose du genre, tu sais, puis c'est ce qui fait que les défaites puis les mauvais jeux sont encore plus difficiles à digérer, mais que les victoires sont encore plus grisantes.
Hey, j'imagine que ça doit être grisant. Passons aux choses sérieuses, Laurent. Là, crois-tu vraiment que le Pentagone souhaite une victoire des Chiefs?
Je pense que le Pentagone a bien d'autres choses à fouetter en ce moment, mais non, pour elle, moi, je souhaite une victoire des Chiefs. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour remporter, mais quelle distraction quand même à travers cette année folle qu'ont eu les Chiefs. T'sais, oui, c'est une équipe qui est peut-être plus la même que quand moi j'ai commencé en termes de popularité, puis de visibilité, puis de d'attention médiatique, mais quand même, je pense aux gars des fois, puis j'ai texté avec quelques joueurs de la ligne offensive, puis j'avais texté Trav en début de saison aussi, puis c'est comme, comment focusser dans cet environnement-là? Moi, je leur lève mon chapeau parce que d'être capable de continuer à focusser, puis de savoir que si tu fais une erreur, ben l'ensemble du monde va blâmer tes autres intérêts comme étant la raison de ta défaite ou de ton erreur. Incroyable. Et en plus avec la saison qu'ils ont eue, ça doit être d'un point de vue de performance, moi je leur lève mon chapeau parce que de se rendre où est-ce qu'ils sont rendus avec l'équipe qu'ils avaient en début de saison, avec leur contre-performance de milieu de saison, puis d'avoir été capable de gagner les deux derniers matchs de la façon qu'ils l'ont fait, puis de se rendre là. C'est quand même assez impressionnant.
C'est quoi la recette du succès? Évidemment, comptant sur l'appui d'une très bonne ligne offensive, là, c'est un sport d'équipe, le football, de résumer ça à deux joueurs, c'est pas juste, là. Mais c'est quoi la recette du succès de Patrick Mahomes, particulièrement de Travis Kelce? Surtout qu'il n'y a plus de Tyreek Hill dans le décor, lui qui avait capté une passe décisive dans votre victoire contre San Francisco en 2020.
Ben, en fait, je pense que le trio que tu mentionnes, Tyreek Hill, Travis puis Pat, c'est comme un trio d'une grande efficacité dans le monde du football, presque inégalé, parce que Travis était capable de se démarquer dans n'importe quel type de fenêtre, puis Tyreek était capable d'étirer toute la couverture défensive, puis permettre ces ouvertures-là pour Travis, puis Pat, c'est Pat, puis je pense qu'il est capable de faire les passes comme personne n'est capable de les faire, puis pour moi, la chimie du duo, c'est vraiment l'instinct football. Tu sais, Travis est capable, même s'il court le mauvais jeu une fois sur deux, de se démarquer puis d'être ouvert dans les bonnes fenêtres au bon moment contre les bonnes couvertures, puis l'espèce de timing qu'ils sont capables d'avoir ensemble, de se retourner puis que la balle soit déjà partie, puis boum, l'attraper dans la manière qu'il fait, pour eux, c'est assez hallucinant. Puis Pat, c'est Pat dans le sens où on peut bien avoir la conversation puis le comparer à plein d'autres corps arrière, mais des corps arrière qui sont capables de sortir en dérobate comme il fait, puis de lancer à contre-courant de tous les angles de bras possibles pour éviter un joueur défensif qui court vers lui, puis sa lecture du jeu, comme d'être capable de... Moi, je me rappelle encore, tu sais, j'ai vécu quand même plusieurs corps arrière. J'ai vécu Alex Smith, j'ai vécu Pat, j'ai vécu Zach Wilson, j'ai vécu Joe Flacco, Mike White. Pat était capable de diriger le trafic de sa ligne offensive comme aucun corps arrière a été capable de le faire, puis ça témoigne aussi de sa compréhension du jeu puis de la structure défensive. Tu sais,
qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? Qu'est-ce que tu veux dire pour tout le monde qui t'écoute, qui sont peut-être moins familiers? C'est quoi le corps arrière? Qu'est-ce qu'il fait pour mieux diriger le front en avant de lui?
Ben, nous, on a un algorithme de protection qui peut être avec un allié rapproché, qui peut être avec un porteur de ballon, qui peut être juste les 5 joueurs de ligne offensive. Puis on dit, nous, on protège soit un certain nombre de joueurs ou on protège contre une certaine zone, tu sais. Puis Patrick Mahomes était capable de littéralement, en fonction des pressions, en fonction de à qui il voulait compléter son tracé, en fonction de la couverture, de littéralement changer complètement notre algorithme de protection, mais pas seulement faisant un miroir pour nous faire aller du côté droit au lieu de nous faire aller du côté gauche, mais vraiment de dire au porteur de ballon, je veux que tu sortes dans le flat pour aller à créer cette double fenêtre-là pour permettre de libérer tel joueur, et donc je vais perdre mon porteur de ballon, et donc je dois envoyer ma ligne à droite au lieu de l'envoyer à gauche, ou les faire bloquer homme à homme au lieu de les faire bloquer en zone, parce que je veux être one-on-one contre le edge rusher au lieu d'être contre un joueur intérieur. T'sais, je sais que je parle beaucoup en ce moment, mais tout ça est capable
de faire ça. Ça va vite, là. T'essaies d'imaginer ce qui se passe dans son cerveau live, là.
Eh oui, puis en même temps qu'analyser tous ces tracés de passe, puis d'être capable de communiquer tout ça à tout le monde, puis savoir exactement contre qui tu veux avoir ton match-up, c'est vraiment impressionnant.
Ben, je comprends que c'est impressionnant. C'est des gars qui dégagent tellement de confiance. Puis tu sais, Patrick Mahomes, toi, t'as joué avec, là, t'as bloqué pour, tu l'as protégé. Ça doit être motivant de jouer en avant de lui, parce qu'il a l'air de tout un guerrier. Pas rien clair, là, je pense que la chanson avec, il l'a prouvé. Écoute, 4 Super Bowl, tu sais, on tente d'en gagner un troisième. Comme leader, là, ben, c'est un peu ça que tu nous dis, là, de donner sa ligne offensive. Tu sais, je pense que ça inspire toute l'équipe. Et en tout cas, en perception extérieure, il a l'air de tout un leader, Laurent.
Absolument, absolument. Puis tu sais, pendant la saison, je trouve qu'on a beaucoup mis l'emphase sur comme ces signaux non-verbaux, tu sais, de déception quand il ne complétait pas une passe à ses receveurs. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est comme des demi-secondes dans un match mis au ralenti. Mais la réalité, c'est que nous, en tant que joueurs, on ne le voit pas. Ça, tu sais, ça se passe derrière nous. Puis par le temps que tout le monde est de retour autour du caucus, ben, Pat a la même confiance, la même intensité, prend le blâme pour chacune des erreurs, puis veut aller de l'avant. Puis ça, je pense que c'est encore une fois, ça témoigne de juste à quel point c'est un bon leader, puis quelqu'un pour qui tu veux bloquer. Parce qu'au bout du compte, tu sais, il y a des scénarios où est-ce qu'en tant que joueur offensif, tu peux faire ton travail sur papier, mais que la structure de notre protection ouvre quand même une brèche à la défensive. Fait que là, si tu veux essayer de bloquer quelqu'un en tendant ton bras pour essayer de ralentir un tout petit peu, mais tu sais, il y a comme une souffrance physique reliée à faire ce type de bloc, mais tu veux le faire pour le corps arrière qui te respecte, puis que toi, tu respectes. Puis Patrick Mahomes était clairement un de ces joueurs-là.
Si je te demande qui a fait cette déclaration, Laurent, et comment ça résonne en toi, « I never feel like an underdog », ça te dit quelque chose?
Ouais, c'est Pat qui a dit ça. Puis okay. Ça, c'est vrai, honnêtement.
Ben, je savais pas que c'était Pat, mais là, la citation que je viens de recueillir, mais Pat l'a sûrement dit, c'est Andy Reid. Fait que c'est une pensée commune, finalement, chez les Chiefs, Laurent. Hein?
Ben, 100%. Puis je pense que c'est une fierté. Coach Reid disait tout le temps, c'est une fierté de jouer avec une cible dans notre dos. T'sais. Quand t'es le meilleur, puis que tu te présentes comme étant le meilleur, puis tu joues avec la confiance d'être le meilleur, you're gonna get everybody's best shot. Puis c'est la mentalité avec laquelle on a joué chaque match à Kansas City. sans avoir la crédibilité comme les Chiefs l'ont maintenant de le faire. Mais maintenant, ils ont la crédibilité de le faire en plus. Puis je pense que cette citation-là est d'autant plus vraie maintenant qu'elle l'était à l'époque où je jouais avec eux.
Quelques petites questions en terminant, Laurent, rapidement. On aime tous les histoires de négligés, même si les Chiefs, puis j'adore la manière que tu réponds à cette question-là par rapport à l'attitude de dégager de la confiance. Mais c'est sûr qu'avec tout ce que tu as vécu, tu peux pas prendre pour les 49ers, mais si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu, tu penses-tu que tu serais séduit? Comment t'aimes les chances puis l'histoire de Brock Purdy, corps partant des 49ers, monsieur Irrelevant, dernier choix repêchage il y a 2 ans?
Ben moi, j'aime surtout la façon dont il se comporte. Je trouve que ses réponses d'entrevue témoignent tellement d'une confiance en lui, puis il fait abstraction un peu de toutes ces distractions puis de ce bruit-là. Moi, il m'inspire quand même confiance. Je pense que c'est un très, très, très bon carrière. Je pense que j'aime l'histoire. Je pense aussi qu'il y a une équipe pour réussir dans le sens où les 49ers, c'est quand même une culture puis un coaching staff. C'est des joueurs clés qui ont fait leur preuve puis qui a vraiment semble vraiment avoir une atmosphère, puis de ce que j'ai entendu de certains de mes coéquipiers qui ont joué là, tu sais, c'est le fun de jouer à San Francisco, puis je pense que c'est une équipe qui le mérite tout autant, c'est une équipe qui est aussi très bien balancée, tu sais, ils ont été capables de courir le ballon probablement mieux que bien d'autres équipes cette année, puis je veux dire, ils ont leur chance aussi, là. Je prends pour les Chiefs, évidemment, mais je pense qu'on va avoir droit à un très bon match, puis comme en 2020, je veux pas faire trop de parallèles, mais la stratégie défensive des 49ers reste un peu la même dans le sens où on met le plus de choix de première ronde sur la ligne offensive, des espèces d'athlètes surhumains, puis je pense évidemment à Chase Young, à Joey à Bosa, puis des bonnes choses vont arriver, puis c'est encore une fois ce qu'ils font cette année, puis je pense que ça va être un des clés du match d'être capable de contrôler cette ligne défensive-là qui peut faire vraiment beaucoup de ravages.
Tu es un tout jeune retraité comme joueur de football de la NFL depuis le 21 septembre 2023. Est-ce qu'il y a encore un petit tiroir, un petit corridor de pensée en toi qui attend encore le téléphone pour revenir au jeu à temps pour dimanche?
Non. Non, absolument pas. Mais tu sais, la passion du foot, elle va toujours rester. T'sais, c'est sûr que ça me fait quelque chose. Puis ça va me faire quelque chose. J'espère que ça va me faire quelque chose pour un bon bout de temps. Tu sais, si c'était pas des blessures, des sacrifices reliés au sport, de mettre la médecine de côté, les projets de côté, tu sais, évidemment qu'on jouerait au football pour l'éternité, mais la réalité, c'est que la minute que tu commences, il y a une date de péremption, puis c'est à toi de l'essayer de pousser cette date-là le plus loin possible en restant vrai par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu veux accomplir dans la vie. Puis pour moi, ben c'était le temps de tirer sur tirer sa plug en septembre dernier, mais tu sais, l'amour du football, la passion du football, puis le sentiment un peu indescriptible de gagner un match devant 80 000 personnes va toujours rester du côté des positifs dans ma liste de positifs négatifs.
Hey, j'imagine c'est la grande réussite sportive de ta vie, comme tu l'as déjà affirmé. En terminant, c'est la dernière, de façon sommaire, qu'est-ce qui va faire la différence dans le match de dimanche et qu'est-ce qui attend l'équipe gagnante en termes de célébration et de sentiment d'allégresse, Laurent?
Je pense que les clés du match, ben, je l'ai dit tantôt, hein, contrôler la ligne défensive des 49ers. Je pense que les 49ers doivent absolument imposer le jeu au sol rapidement dans la rencontre, puis rester l'équipe qu'on a vue, tu sais, dans les meilleurs moments de leur offensive cette saison. Il faut qu'ils soient capables de recréer ça puis jouer avec leur style qui a été autant garant de succès de leur côté. Puis du côté des Chiefs, ben, je pense qu'il faut rapidement être capable de montrer que d'autres joueurs peuvent être des menaces que Travis Kelce pour ouvrir des lignes de passe, ouvrir des lignes de course, donner des opportunités à Travis, parce que les matchs où est-ce que les Chiefs ont été paralysés, c'est des matchs où est-ce que on était confiant que en tant que défensive adverse qu'on pouvait doubler Travis Kelce tout le match puis être quand même efficace. Puis je pense que si on est capable de montrer qu'il y a d'autres menaces potentielles, c'est là que ça ouvre les opportunités. Puis après ça, ben, je pense que ça va être un match. Moi, j'ai bien hâte de voir la confrontation, mais d'un niveau mental. Tu sais, c'est un match qui a eu lieu il y a 4 ans. Il y a des souvenirs reliés à ça. Ça allait laisser des marques. C'est un jeune corps arrière avec une équipe d'expérience. C'est une équipe qui probablement se bat pour le titre de dynastie de l'autre côté. Dès qu'il va y avoir des changements de momentum, je pense que ça va vraiment semer le doute chez certains joueurs, puis c'est de voir comment les équipes vont être capables de rapidement se reconnecter dans la partie. Puis je pense que c'est ça qui va être intéressant à travers ce match-là. J'espère qu'on n'aura pas un match à sens unique, puis un match avec des grosses variations de momentum, puis c'est dans ce temps-là que c'est exaltant de regarder.
On veut que le suspense dure jusqu'à la fin, puis tu l'as vécu, le party des gagnants du Super Bowl, c'est quelque chose?
Ouais, c'est quelque chose, puis il y en a beaucoup des parties. Il y en a sur le terrain, il y en a à Miami et Vegas après, il y en a à Kansas City, on avait une parade de 1,4 million de personnes dans une ville de même pas 1 million d'habitants, Montréal, je veux dire, le football, le Super Bowl est un événement télévisuel planétaire, probablement le plus gros rendez-vous annuel. Puis quand tu le remportes, ben ça se décline dans tellement de façons et de moments de joie avec tes amis, avec ta famille. Puis c'est quand même une expérience assez marquante.
Merci de nous partager tout ce que tu as ressenti à le vivre et de nous expliquer comment t'anticipes le prochain Super Bowl, Laurent. La dernière fois qu'on s'est parlé le jour de ta retraite, tu étais dans une cabine de toilette bien enfermée pour pas être dérangé pour nous parler. Ce soir, tu étais dans ta voiture. Merci beaucoup pour ces beaux moments, Laurent. À bientôt, j'espère. Puis bonne fête, bon Super Bowl.
Hey, merci. Salut, Mario.
Merci, Laurent. Bye bye. Nanana.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Salut Antoine, comment ça va?
Salut Mario, ça va super bien et toi?
Oui, ça va bien. Alors, tu rappelles-tu la cabane à sucre en fin de semaine pour regarder le Super Bowl?
Ben écoute, on l'a jamais fait. Tu me mets la puce à l'oreille. Là, on était en train de faire une petite réunion préparation de cabane avec mon équipe. Puis je vais leur faire part de ta merveilleuse idée. Puis ils vont sûrement être bien contents que tu leur apportes plus de travail.
pourquoi pas, Antoine. Écoute, par où je commence ce soir? J'ai une couple de sujets dont je voulais te parler. Tiens, commençons avec André Tourigny. Le cycle des rumeurs, ben André Tourigny des Coyotes, pas André, mais j'ai une conversation avec. Le cycle des rumeurs est reparti dans le cas des Coyotes de l'Arizona. Et j'avais une conversation avec André hier où il était question, je pense, François, je vais avoir besoin de toi, mon cher. André qui admet qu'il y a des distractions.
Écoute, on essaie de justement s'assurer notre focus à la bonne place. Avoir des gars qui ont déjà passé par là, ça l'aide. C'est sûr que c'est une distraction. Mario, là, je te dirais que c'est pas une distraction. Là. Le fait qu'on s'en fait parler à toutes les... Tu sais, la plus grosse distraction, là, puis c'est pas méchamment que ça. Moi, c'est différent parce que mes enfants sont à l'Université de Montréal et à Ottawa. Puis ça, c'est différent, mais exemple, les joueurs qui ont des enfants à l'école, il y a des joueurs qui sont en train de faire construire des maisons, il y a des joueurs qui sont en train d'acheter une maison, là, ils entendent des rumeurs. Eux autres, là, la madame, elle appelle, elle dit « Hey, qu'est-ce qui se passe, le grand, je sais pas ce qui se passe, moi, j'ai pas entendu parler de rien. » Elle, elle est inquiète, il en parle à la maison, « Veux pas, c'est une distraction. » Puis, ils sont humains, là, c'est la même chose comme aujourd'hui, mon gars m'a appelé, m'a parlé. Mon gars m'a appelé, « Hey, qu'est-ce qui se passe, as-tu des nouvelles? » Non, pas de nouvelles, là. C'est un fait, c'est là, puis ça n'est une distraction. On essaie de faire abstraction de tout ça, mais veut pas, c'est présent.
Bon, tu as joué une saison en Arizona, mais je sais pas s'il y avait des rumeurs cette année-là, Antoine, mais de quelle façon, puis le monde, on peut toujours dire, ils font pas pitié, les gars sont bien payés, mais c'est vrai que c'est bouleversant pour tous ceux qui sont au cœur de ça, alors que là, ça repart, là.
Ben en fait c'est oui absolument, c'est bouleversant, puis c'est sûr qu'on pense toujours qu'il y en a toujours, oui absolument tu as raison, il y en a qui sont super bien payés, mais il y a des joueurs qui dans la ligue ben ils ont juste ça dans la vie, ils ont pas de bac, ils ont rien, donc le hockey ça va être le seul moyen qu'ils vont gagner leur vie finalement. Puis quand t'as des distractions de la sorte, ben t'achètes une maison puis tu l'achètes peut-être pas dans le meilleur temps, l'équipe déménage, tu la revends peut-être pas au meilleur prix, tu perds de l'argent. Écoute, des histoires comme ça, j'en ai entendu sur des joueurs justement qui ont déménagé puis ils avaient acheté leur maison au mauvais moment, ils en ont perdu. Là, bien entendu, ça arrive dans la vraie vie aussi, oui. Mais ça fait partie de tout ce bruit ambiant qui est pas très bon pour les performances sur la glace, parce que bien entendu, je trouvais qu'André, il a vraiment mis le doigt sur là où ça fait mal, c'est vrai, là, c'est parce que à la maison, qu'est-ce qui se passe? T'as ces questions-là, ta famille se pose ces questions-là. Et est-ce que tu t'implantes bien avec l'équipe? Est-ce que tu te sens vraiment imprégné du est-ce que tu es tatoué sur le corps, le logo de l'équipe? Je penserais pas quand t'entends autant de choses au sein de l'équipe que peut-être ça va déménager. Est-ce que ça s'en va à Houston? Est-ce que ça s'en va à Salt Lake City? Est-ce que ça s'en va, exemple, Québec? Non, mais c'est pesant. Et moi, quand j'avais été avec l'équipe, ben c'était ma dernière année de contrat, puis je me doutais que c'était peut-être la fin, mais peut-être que j'allais re-signer ailleurs. Donc, je savais que j'étais juste là pour passer. Mais quand tu es là depuis un certain nombre de temps, ça peut être difficile, puis c'est annoncé clair.
Oui, puis est-ce que tu as l'impression que les gars qui jouaient là, puis est-ce qu'ils en jasent? Est-ce qu'ils se disent, on est là pour les 20 prochaines années? T'sais, c'était-tu un sujet où, à un moment donné, les gars n'en parlent pas? Puis quand ça tombe des nouvelles?
Ben, quand ça tombe dans les nouvelles, c'est clair, ça devient sujet dans la chambre, autour de la machine à café, puis les gars parlent, est-ce que vous avez entendu quelque chose par rapport à ça? T'sais, je pense pas que cette information circule au sein du vestiaire généralement. Puis en fait, les meilleures personnes qui sont capables, c'est peut-être les trainers. Des fois, eux sont capables d'avoir de l'information parce que ils doivent gérer l'équipement, la commande de chandail, la commande de d'équipement pour l'année prochaine. Donc généralement, c'est les personnes qui sont les premières à informer un petit peu de ce qui s'en vient à ce niveau-là. Mais moi aussi, je serais pas surpris qu'il y ait une grosse nouvelle qui arrive bientôt dans le cas des Coyotes. Et on est rendu là.
C'est fini, les Coyotes, là, en Arizona. Ils vont peut-être retourner là, maintenant, avec une autre équipe quand le marché sera prêt avec un amphithéâtre. Mais c'est parce que tu peux pas vivoter. Puis, veux pas, les joueurs se gardent bien de faire des commentaires nocifs à la cause de l'équipe.
Place. Hein? Mario, c'est parce que c'est une belle place. Le monde aime ça, vivre là. C'est ça, en fait, le bobless, c'est que c'est beau, c'est plaisant pour les familles. Tu peux lever ta famille là-bas. C'est vraiment un endroit qui est pittoresque. Il y a des montagnes, il y a du désert, il y a des cactus. C'est vraiment quelque chose. C'est tellement différent de qu'est-ce qu'on connaît ici au Québec que c'est vraiment en tout cas moi
dans un bel aréna Antoine, je voulais pas te couper, mais dans un bel aréna là-bas avec des fans à 20 000, je veux dire, tout le monde va aller jouer là puis peux revenir sur l'expérience avec ta famille.
C'est clair, mais absolument, mais l'amphithéâtre, c'est la pierre angulaire de ce qu'il faut faire. Puis on n'est pas capable de le réaliser. Puis à un moment donné, ben écoute, c'est quand ça se réalise pas, ben on pense à un autre projet généralement. Puis est-ce que c'est ça que la Ligue nationale va faire? Puis à ce moment-là, peut-être qu'il reviendrait avec une équipe d'expansion, avec un autre propriétaire qui a déjà une aréna là-bas. Peut-être que c'est ces genres de propriétaires-là qu'il faut viser. La prochaine fois, un petit peu comme le propriétaire de son Click City.
Oui, mais tu sais, comme on est prêt à retourner à Atlanta une troisième fois, moi je suis convaincu que même si les Coyotes quittent l'Arizona, qu'un jour la Ligue, ben, je suis convaincu. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils y retournent, à condition que quelqu'un les accueille dans le building. Ben oui.
Mais Gary l'a dit le week-end dernier, s'ils sont partis, c'est un trop gros marché, on y retournera. Puis c'est la stratégie de la Ligue nationale d'être présent dans beaucoup de marchés. Puis la Ligue nationale, c'est la ligue qui a le moins d'équipes sur le sol américain des quatre plus grosses ligues américaines. Donc, ils ont encore du potentiel pour grossir puis développer le sport. Puis c'est de cette manière-là qu'ils voient, c'est des nouveaux partisans, c'est des nouveaux revenus, c'est des nouvelles équipes. Même si ça peut-être dilue un petit peu le produit, au final, c'est plus de monde qui suivent le hockey. Puis c'est ça que Gary Bettman, c'est le petit signe après les virgules qu'il aime bien, le signe de la pièce.
Admettons qu'il installe 5 autres concessions aux États-Unis, t'es rendu à 37 équipes. Je ne sais pas si, pour équilibrer les choses, ça laisserait une place pour une 8e équipe au Canada. Parce que moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. Puis ce à quoi tu as fait allusion, on en avait déjà parlé. Moi, j'en ai parlé à M. Bettman directement au repêchage en 2022. Puis, et d'ailleurs, il y a loin d'être fermé, je dirais pas au marché canadien, mais au fait qu'il y avait encore de la place pour bien d'autres villes à accueillir un club de la Ligue nationale aux États-Unis. Il a renchéré en disant, puis là où on s'installe, les gens se mettent à jouer. Et donc, il y aura un héritage en Arizona, même si l'équipe devait quitter pendant quelques années. Austin Matthews en est une des preuves. Mais j'aimerais ça que ça ouvre aussi la porte pour peut-être un 8e club au Canada. Parce que c'est le seul des circuits professionnels qui est aussi bien implanté au Canada à cause de la nature du sport, évidemment.
Ben oui, absolument. Puis est-ce qu'on est obligé d'arriver à 37 pour qu'on en ait une 8e?
J'aimerais
ça que ce soit si on y va de deux autres équipes, parce que probablement on aime ça les chiffres pairs.
Ce serait intéressant que justement le Québec revienne dans la conversation. Puis j'ai tellement trouvé ça, je sais pas si tu as écouté cette entrevue là, Elisabeth Rancourt à TVA avec Gary Bettman justement au match des Étoiles, et lui a un petit peu remis dans la face qu'il avait pas nommé Québec comme
à
sa conférence de presse. Fait que quand elle était en entrevue avec lui, ben lui a demandé, mais là vous avez pas mentionné Québec, est-ce que faut voir quelque chose qui va pas avec Québec? Puis là, ben lui répond, ben oui, j'ai mentionné Québec, mais il l'avait pas fait. Puis ça a été quand même cocasse de l'avoir tenir son bout, puis elle a très bien fait ça. Et ça donnait un beau moment de
plaisir. J'ai raté l'entrevue, mais elle est excellente, Elisabeth. Franchement, là, je trouve qu'elle fait un fichu de bon boulot, et c'est toute une chef d'antenne pour TVA Sport. Je la salue, je sais, elle est à l'écoute, mais j'ai pas vraiment beaucoup regardé. J'ai regardé en accéléré, honnêtement, le match des Étoiles. Je m'en confesse, Antoine. Je sais pas si t'as aimé ça. As-tu aimé ça?
Ben, j'ai adoré tout ça. J'ai adoré les visuels qu'on avait. Écoute, le show, on va appeler ça le show de la mi-temps, un petit peu comme au Super Bowl. C'était excellent. Puis je parle pas juste parce que c'était flamboyant. J'aimais ça qu'il y avait des danseurs. J'aimais ça que le chanteur se promène partout, la chanteuse plutôt, se promène partout sur la glace. C'était parfait. Les visuels qu'on avait aussi durant le concours des habiletés, quand Sidney Crosby est assis sur le banc à côté de la jeune vedette montante Connor Bedard, pour moi c'est un grand succès, ça, le week-end des Étoiles pour la Ligue nationale, parce que on a réussi sur plein de volets, on a fait des choses nouvelles, puis on les a réussies. Donc c'était le fun à regarder, pour être honnête avec toi.
Ben, tant mieux si t'as apprécié l'expérience. T'avais-tu déjà eu l'occasion de visiter ou de participer d'une façon ou d'une autre à un match des Étoiles, à part dans un rôle avec un réseau de télévision comme ça a été le cas?
Non, malheureusement, je n'ai jamais participé à Match des Étoiles, Mario, mais juste de loin un petit peu. Puis j'étais toujours bien content de pouvoir profiter de quelques jours supplémentaires de congé durant cette pause-là.
Parce que t'es une étoile à ta façon, mais t'as choisi ton département. Tu brillais dans plusieurs aspects du jeu, mais réalisais-tu, Antoine Roussel, que t'es le deuxième joueur le plus puni de la LNH 2 ans après avoir pris ta retraite au cumulatif, sur un pied d'égalité avec Pat Maroon, avec 978 minutes de pénalité depuis 2013-14? Il y a juste Tom Wilson qui te surpasse. Méchant garnement.
Une petite tape sur le poignet, mais c'est sûr que ma première saison a été à ce niveau-là, au niveau des minutes de punition. Ça avait été quand même assez rock and roll. Je voulais faire ma place, et écoute, petite anecdote pour finir la soirée. On est dans le dernier match de la saison, on joue en Arizona, puis je regarde les statistiques, puis à ce moment-là, j'avais peut-être 187 minutes de punition, quelque chose du genre. Et je regarde les autres, il y avait Tom Sestito, un autre qui avait 10 minutes de plus de punition que moi. Puis il jouait juste avant, mais j'avais pas le temps de voir les statistiques avant de commencer le match. Qu'est-ce qu'il avait fait? Fait que moi, dans ma tête, je me disais, ben, tu sais, si ça va pas bien, dans les 5-10 dernières minutes du match, fais un petit show de boucan, pogne en 10 minutes, puis finis le gars le plus puni de la ligue. Tu sais, c'est un petit peu comme essayer d'avoir le plus de points, là. Ben moi, c'était ça à la fin, malheureusement. On joue le match, puis ça arrive un petit peu, je me disais, il se passe pas grand-chose. Et à la fin du match, ben là, je voulais brasser un peu, puis l'arbitre, je me rappelle vraiment, je pense que c'est Kelly Sutherland ou quelque chose de même à ce moment-là. Puis je lui dis, hey, Kelly, t'as pas un petit 20 minutes sous le bras? Il dit, Antoine, j'ai seulement 12 minutes et je te le donne tout de suite. Donc, j'ai eu 12 minutes de punition, j'ai passé le 200. Puis là, dans ma tête, c'est parfait, je vais finir premier. Puis finalement, Tom Sestito, il m'avait vraiment battu. Il avait pogné un 25 minutes de punition dans sa dernière game pour être sûr de finir premier, quelque chose du genre.
Eh bon en temps, parce que t'avais 85 à ta première, mais t'avais juste 39 matchs, c'est un bon ratio, 209 minutes à ta deuxième année en 81 matchs, après ça 148, 123, 115, 126, 118, écoute, puis ça continue ainsi jusqu'à un total de donc assez impressionnant de minutes de pénalité, j'avais quoi, ah, puis le pire c'est que t'as eu en beaucoup moins de matchs joués que Pat Maroon, t'as joué plus que 200 matchs de moins que lui. Mais juste à titre de comparaison des époques, sais-tu quoi, pendant que je t'écoutais parler, j'ai dit, je vais aller voir un gars qu'on a bien connu qui ne recueillit pas mal de minutes de pénalité. Tu te souviens de Chris Nyland, tu sais, avec ta Canadien. As-tu connu Chris Nyland?
Ben
oui. T'étais trop jeune.
Ben oui, de nom, okay. Mais c'est sûr que je ne l'ai pas nécessairement vu jouer comme toi.
Je regarde ça, là, écoute, 3043 minutes en carrière.
C'est différent, mais à l'époque, il donnait beaucoup plus de 20 minutes de punition du genre, mais c'est vrai que
ça, ouais.
D'inconduite, il y en avait un petit peu plus, puis c'était un peu plus commun d'avoir plusieurs 10 minutes là, dans un match. Là. Donc je pense que ça s'accumulait, mais ils les ont pognés quand même, puis c'était du hockey qui était complètement différent aussi.
Ouais, puis il y avait plus de bagarres.
Aussi. J'étais bien content d'avoir joué dans ma génération, puis pas avant.
Et sa plus grosse année, 358 minutes de punition, 21 buts. Fait que maintenant, laissons les minutes de pénalité de côté. Antoine, il y a des bonnes équipes canadiennes puis là qui se sont améliorées avec des acquisitions importantes, surtout dans le cas de Winnipeg et dans le cas des Canucks de Vancouver. Edmonton puis Toronto doivent vivre avec les choix qu'ils ont déjà faits. Si tu avais, je regardais les cotes pour les favoris gagnés à Coupe cette année, je suis pas un maniaque des paris, mais je regardais voir comment les parieurs évaluaient ça. La seule équipe qui est bien coté, c'est Edmonton. Pas beaucoup de considération dans les offres de Paris pour Toronto, Winnipeg et Vancouver. Toi, si tu mettrais un vieux 2, comme je dis tout le temps, tu le mettrais sur qui en ce moment?
Écoute, je trouve que Vancouver, défensivement, dernièrement, puis ce soir, ils l'ont encore un petit peu prouvé, ils perdent 4-0 contre les Bruins de Boston. Ils se sont améliorés avec leur échange, mais j'ai des doutes. Winnipeg, je trouve que offensivement, c'est difficile pour justement créer de l'offensive, marquer des buts, ça va être difficile. Toronto, on manque de profondeur. C'est sur 60 ou 65% des buts de l'équipe, c'est le quatuor qui le fait. Tavares, Marner, Matthews, puis Nylander. C'est eux qui font partie, qui marquent quasiment tous les buts de l'équipe. Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'équipe qui est parfaite, malheureusement. Mais si j'avais un beau... Et puis Edmonton, un petit peu aussi, on s'est amélioré. J'ai hâte de voir eux ce qu'ils vont faire à la date limite des échanges. Si on va continuer d'ajouter un petit peu de profondeur, ça sera pas évident, ça c'est sûr. Mais le petit 2, le fameux petit 2, j'irai quand même avec ma gang de Vancouver parce que j'ai l'impression que défensivement, ils vont se replacer. Puis Demko va jouer du gros hockey en série, puis Elias Pettersson aussi.
Combien de points sur 4, une possibilité de 4 pour le Canadien en fin de semaine, Antoine?
Écoute, soyons fous. Pourquoi pas 2 victoires?
Oh boy! Écoute, on part. Ça serait 3 de suite après le départ de Monahan. Et ta prédiction Super Bowl?
Ben, Super Bowl, on va y aller avec Kansas City.
OK. Les Chiefs qui vont l'emporter.
Je me demande s'ils vont pas donner le trophée à Taylor Swift en premier.
Écoute, je demandais à Laurent Duvernay-Tardif s'il pensait que le Pentagone était vraiment, ou souhaitait vraiment que les Chiefs l'emportent. Antoine, un gros merci. Bon préparatif de ton party dans la cabane à sucre. Salutations à toute ta gang. Ciao, ciao. Salut.
Bye.
Salut, gars. Salut, Antoine.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.